Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Galère et nous allons commencer Écoforum. Il est 19h et c'est une émission enregistrée, vous n'allez pas pouvoir nous téléphoner. Et oui, nous allons avoir un spécialiste des boues rouges. Et oui, un sujet qui me tenait à cœur, un sujet entendu par tous les Marseillais, petits et grands, dont on connaît très peu finalement. Aujourd'hui, il est l'occasion de connaître le sujet pour nous, la Méditerranée, la faune, la flore et nos futurs enfants. Nous avons à l'antenne Henri Augier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Ex-directeur du laboratoire de biomarine, maître en conférence à la faculté des sciences Marseille-Lumini et expert consultant international sur les problèmes de pollution et protection de la nature. Et grand acteur dans le dossier des boues rouges. Il a écrit le livre noir des boues rouges. C'est pour ça que nous allons pouvoir parler et épiloguer sur le sujet. Alors, qu'est-ce que les boues rouges, finalement, ce mot si simple, si doux?
Voilà, bon, vous avez oublié que je suis président de l'association Union Calanque Littorale, et c'est
elle qui se bat
depuis tant d'années hein, pour la protection des calanques. Alors, je vais vous raconter une histoire, une partie de notre histoire qui n'honore pas la France. C'est un scandale sans précédent de pollution de la mer. Pollution de la mer par un industriel peu lesté de scrupules. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de boues rouges. Bon, qu'est-ce que c'est que les boues rouges?
Oui.
Bien, c'est considéré comme un déchet industriel. L'usine de Gardanne, l'usine d'alumine de Gardanne, qui est responsable de ce rejet en mer. Que fait l'usine de Gardanne? Elle fabrique de l'alumine. L'alumine. Alors, on ne se trompe pas, ce n'est pas de l'aluminium. Hein. Oui. Ça fabrique de l'alumine. Ça veut dire que cette usine envoie ensuite cette alumine dans d'autres usines où là, on fabrique de l'aluminium. Alors, pour fabriquer de l'alumine, que fait cette fabrique? Elle utilise donc un minerai qui s'appelle la bauxite. Et donc, par un procédé industriel utilisant de la soude à haute température et à haute pression, il en sort donc un produit blanc, poudreux, qui s'appelle l'alumine. Ce qui a le problème, c'est que quand on fait ça, il y a un résidu très important, plus de la moitié du minerai, beaucoup plus, quelquefois une fois et demie. Ce sont des déchets industriels dont l'industriel ne sait pas quoi faire.
Et oui. Et donc, surtout dans cette méthode-là, oui. Parce que c'est une vieille usine en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, les usines...
C'est une usine qui a été construite avant 1900. Donc, ça vous donne une idée. C'est une vieille dame et donc qui est en fin de vie.
Parce qu'à l'heure actuelle, le processus permet de travailler en circuit fermé et plus rien n'est rejeté.
Voilà. Alors, pendant longtemps, l'industriel a stocké ses rejets, ses boues rouges à terre. Et comme il y en avait trop... Il a réussi à avoir une permission pour le rejeter en mer, et notamment dans les calanques.
Oui.
Et à l'époque, il y a eu un consensus, alors tenez-vous bien, de scientifiques, c'est-à-dire des gens qui étaient aussi titrés que moi, sinon plus, qui ont donné une autorisation en disant que ce n'était pas toxique. Ce qui est faux, totalement faux. Et je peux le prouver, puisque dans ce livre que nous venons d'éditer, tous les renseignements concernant cette pollution y sont.
Ils avaient même cité que c'était sans risque.
Ce que l'on ne sait pas, c'est que pour les boues rouges, il faut raisonner non pas seulement en contamination par des polluants, mais il faut considérer que c'est quelque chose qui a été déposé en mer pendant plus de 50 ans, de 50 ans, ce qui représente entre 20 et 30 millions de tonnes de boues rouges. Et tout ça a été déversé par une canalisation qui partait de Gardanne, donc de l'usine, de 47 km, et qui aboutit à Cassis, et qui est déversée à 300 mètres de profondeur au large de Cassis, qui vont ensuite s'accumuler sur les grandes profondeurs aux environs de 1000 mètres. Alors, ce qu'ils n'ont pas tenu compte à l'époque, c'est que c'est un matériau qui a tout recouvert. Ça veut dire que tout ce qui vivait sur les fonds sont morts,
ouais. Son
C'est un véritable enterrement de première classe, complètement mort sous les bouges. Alors, nous sommes tous profondément terriens. On n'imagine pas ce que ça représente. Imaginez que cette masse gluante de boue rouge soit répandue sur le littoral, toutes les villes du littoral disparaîtraient sous les boues rouges. Il n'y aurait plus Toulon, il n'y aurait plus La Ciotat, il n'y aurait plus Cassis, il n'y aurait plus Marseille, il n'y aurait plus Fos. Ça s'étale du large de Toulon jusqu'au large de la baie de Fos-sur-Mer.
Ah oui,
C'est
c'est
quelque
immense.
chose d'absolument scandaleux.
Et tous
Alors,
les...
devant la pression de la population, des associations, de certains scientifiques dont je suis, l'industriel a promis d'arrêter tout rejet au 31 décembre 2015. Alors, il a soi-disant tenu parole en 2015, 31 décembre 2015, il a arrêté le rejet des boues rouges. Et donc, nous étions très heureux, on pensait que c'était terminé, parce qu'il a écrit. Il n'y aura plus aucun déchet.
Aucun
Alors,
déchet.
oui.
Et...
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir arrêter le déversement de boues rouges, il a installé, avec l'aide de l'agence de l'eau, il a installé ce qu'on appelle des filtres presse. Alors, ces filtres presse, ça donne deux fractions. Une fraction épaisse, gluante, de boue, et une fraction liquide. La fraction boueuse, il en fait des galettes,
Oui.
et il a intitulé ça la bauxaline, hein, ça devient de bauxite, une appellation pompeuse, bauxaline, qui serait soi-disant utile pour les travaux de route, du bâtiment, etc. Mais il s'est avéré que cette bauxaline était toxique, c'est-à-dire qu'une partie des polluants se retrouvait dans la bauxaline qui est actuellement déposée dans un lieu qui s'appelle Mange-Gary, entre Bouc-Belair et Gardanne.
Ah, du coup, il n'y a plus aucune boxeline utilisée.
Voilà.
D'accord.
Et alors l'autre fraction, la fraction liquide, comme il ne savait pas quoi en faire, il la rejette, il a demandé une autorisation qui a été accordée par le préfet, il la rejette par la même canalisation au même endroit que les boues rouges, c'est-à-dire que maintenant, depuis 2012, les Calanques sont un parc national. Bien, on continue donc à empoisonner la flore et la faune du parc national par ce rejet de ces effluents, donc ils ne sont plus rouges,
Oui.
mais ils ont gardé une grande partie des polluants.
C'est quel métaux qui donnait la couleur rouge à l'ancienne boue?
Alors, ce qui donnait la couleur rouge, ce sont ce qu'on appelle des oxydes de fer. Les oxydes de fer qui se révèlent par le rouge.
D'accord, alors actuel, il n'y a plus d'oxyde de
Or,
fer, mais il y a tous
les
les autres.
oxydes de fer ont été transférés dans la bauxaline, et
Ouais.
c'est pour ça que le rejet actuel est relativement, si j'ose dire, relativement clair. Mais il est très chargé. Alors, si vous voulez, le gros problème actuellement, c'est que les boues rouges étaient plus denses que la mer, et donc, étant rejetées à 300 mètres, 320 mètres de profondeur, elles allaient s'accumuler vers les grands fonds.
Oui.
Or, maintenant, c'est de l'eau, c'est comme de l'eau douce, déchargée donc du matériel boueux, et donc ce rejet est plus léger que l'eau de mer. Et par conséquent, il a tendance à remonter en surface et d'être repris par le vent et les courants et d'être éparpillé sur la totalité du parc national des Calanques dans la zone la plus riche de ce parc. Donc c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Et l'autorisation a donc été donnée par le préfet de région des Bouches-du-Rhône, sur commande du premier ministre de l'époque, Manuel Valls,
D'accord.
et contrairement à ce qu'avait dit et déclaré la ministre de l'Environnement, qui était Ségolène Royal.
Qui est...
Ségolène Royal était contre ce rejet, elle s'est exprimée, et elle a été mise de côté par le premier ministre, Manuel Valls, qui a donné ordre au préfet de donner l'autorisation de. C'est probablement scandaleux parce qu'on ne respecte même pas le caractère démographique, hein, démocratique, excusez-moi,
Oui.
démocratique de notre pays.
Je suis bien d'accord. Et cette sortie de liquide, elle est aussi riche que la boue rouge. Donc, il n'y a pas l'oxyde de fer, mais il y a toujours la soude, l'arsenic, molybdène, l'aluminium. Quelle est la proportion de polluants? Ça a un peu diminué ou pas du tout?
Alors, nous avons pris en chat, en note, les déclarations, plus les déclarations des grands qui s'appellent l'ANSES, le BRGM, etc. Et donc, nous sommes arrivés à une totalité, tenez-vous bien, de 82 polluants. 82 polluants qui se retrouvent dans ces eaux industrielles. Et parmi ces polluants, il y a de très nombreux métaux lourds, très toxiques. Le molybdène, le bore, le chrome, le plomb, le cuivre, l'antimoine, le mercure, et aussi des métalloïdes, notamment l'arsenic, hein, dont on connaît, du point de vue historique, hein, la toxicité mortelle. Donc, voilà ce qu'on rejette donc, dans les eaux du parc national des Calanques, avec l'autorité dite compétente.
Encore à l'heure actuelle.
Ah, et encore actuelle, bien et entendu. Oui. Bien entendu. Alors, l'industriel dit qu'il fait tout ce qu'il peut. Alors, c'est vrai, aidé par l'agence de l'eau, il vient d'installer un traitement de ses eaux par du dioxyde de carbone, c'est-à-dire du gaz carbonique, si vous voulez. Hein. Et de cette façon-là, il a déjà encore diminué, ça je le reconnais, la charge en polluant, mais cette charge est toujours très importante, à tel point que, comme tout ce que nous avons pu faire au niveau des administrations, des politiques, du gouvernement, ont échoué, nous n'avions plus qu'un recours, c'était de saisir la justice. Et nous avons donc saisi la justice, le tribunal administratif de Marseille, également la cour d'appel de Marseille, et la justice nous a donné en partie raison en diminuant le temps qui est accordé, l'autorisation qui est donc accordée à l'industriel. Et nous allons continuer, puisqu'il n'y a guère que la justice, et aussi, je tiens d'ailleurs à vous remercier de nous avoir sollicité pour nous exprimer, votre radio, parce que tous les médias se sont refermés. Les journaux régionaux, etc., se sont fermés. Mmh. Nous ne pouvons plus exprimer tout ça clairement.
Et, oui. Et c'est nécessaire.
À le dire et à le dénoncer.
Merci beaucoup. Ben, c'est un sujet qui est nécessaire et trop flou parmi tous les Marseillais et Français. En fait, c'est un sujet qui touche la France entière.
Alors, est-ce que j'ai encore un peu de temps pour demander à ceux qui nous écoutent?
Oui, vous avez largement le temps.
Oui, s'ils peuvent nous rejoindre. Donc, nous sommes une association qui s'appelle Union Calanque Littoral. Vous pouvez nous trouver sur notre site ucl.association.free.fr. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à unioncalanquelittoral@gmail.com.
Je le réécrirai sur le site de l'émission et le répétera aussi en fin d'émission.
Voilà. Et nous avons vraiment besoin de vous tous. Et nous avons aussi d'énormes frais de justice et il nous est très difficile de faire face à tout ça. Nous avons besoin de vous tous.
Bien sûr. Et quels sont là les prochains objectifs et les prochains objectifs à atteindre?
Alors,
parce que la fermeture définitive, pour le moment, c'est pas d'actu.
Fait quelque chose de très important. Nous nous sommes adressés à l'Europe et nous avons donc porté plainte contre l'État français. Et l'Europe est en train d'examiner notre demande pour condamner l'État français de cette affaire-là. Donc, vous voyez, ça va très, très loin, et c'est quelque chose de très, très grave. Il n'est pas tolérable que les Calanques soient le seul parc national au monde discrédité par un permis de polluer et de tuer la vie marine.
Parce que c'est la seule usine qui rejette dans les parcs des Calanques?
Excusez-moi, je n'avais pas
C'est
compris.
la seule usine qui rejette dans le parc des Calanques?
Ah ben oui, c'est l'usine, bien entendu.
Non,
C'est
mais il n'y en a
l'usine.
pas d'autres. Vu
Ah
que
non, c'est que l'usine.
c'est la seule dérogation qui a été acceptée.
L'usine, donc, a une autorisation préfectorale, d'une part, pour rejeter ces effluents pollués dans les eaux protégées du parc national des Calanques, et elle a aussi une autorisation pour le dépôt de ces boues, c'est ce qu'on appelle maintenant les dans un site qui s'appelle Mange-Gary et qui est situé entre Bouc-Bel-Air et Gardanne.
Oui, c'est
et bon,
situé
là aussi,
en plein air.
C'est quelque chose dont les habitants donc, souffrent énormément, puisque par grand vent, ça soulève des poussières, des particules.
Ouais.
Et il y a eu des épisodes où ces petites villes, Bouc-Bel-Air et Gardanne, étaient recouverts donc de cette couleur rouge de ces particules qui s'insinuaient dans les yeux, dans le nez, mais aussi dans la bouche. Et certaines particules pénétraient dans les poumons et dans les alvéoles pulmonaires. Donc, un énorme problème là-bas concernant la santé des habitants.
Ça peut arriver jusqu'à chez nous aussi.
Ça peut arriver, mais enfin, c'est assez lourd, hein, donc... C'est surtout c'est quelque chose de local, mais qui concerne quand même pas mal d'habitants. D'ailleurs, j'ai proposé, vous savez, la petite ville de Bouc-Bel-Air, j'ai proposé de la débaptiser, de l'appeler Bouc-Bouc-Bouc-Mauvais-Air.
C'est pour surmonter le moral, peut-être qu'ils l'ont appelé comme ça.
Alors là, le maire de la commune a porté plainte, hein, donc ça c'est quand même une bonne chose, hein, il a porté. Et sur place, il y a une association de défense des habitants et de l'environnement qui est aussi très active comme nous, avec qui nous sommes en relation.
Retournons un peu sur les boues rouges exactement. En fait, il n'y a pas que les éléments qui sont préjudiciables, il y a la température, le pH, où après, en fait, il n'y a plus aucune vie après le dépôt des boues rouges.
Mais le pH, bon, vous comprenez bien que le traitement de la bauxite par de la soude,
oui.
Ça donne donc un produit qui est très basique. Et ce produit très basique pose d'énormes problèmes, d'une part sur le milieu marin et d'autre part sur le dépôt à terre. Et là, donc, l'industriel a du mal à répondre à toutes les objections que des associations, hein, aussi bien terrestres que marines.
Et la quantité a réussi à être diminuée au fur et à mesure des années?
Alors là, oui, il faut reconnaître qu'il y a eu un effort. Bon, avant de dire ça, il a eu 50 ans pour arrêter, hein, l'industriel. 50 ans. Bon, ouais, 50 ans. Bon, alors il a fait un effort. Le premier effort, c'est de mettre en place donc, ces filtres presse qui lui a permis d'arrêter le rejet des boues rouges le 31 décembre 2015. Et ce qui ne l'a pas empêché, donc, comme je viens de le dire, de transformer ce rejet en eau claire mais polluée en mer et les dépôts de bauxaline à terre. Et depuis, bon, il a montré une volonté évidente d'essayer de progresser dans le retrait donc, de ces polluants, de ces effluents. Mais il est très en retard. C'est une question d'argent. Au point de vue financier, c'est une usine qui ne rapporte plus rien.
Et oui.
Est chaque année en déficit. Nous avons dans notre équipe un spécialiste de tous les problèmes financiers, de l'économie, etc., qui nous représente une commission qu'on appelle la commission de surveillance du site. Et il a fait des études montrant que l'usine n'était plus rentable et que chaque année, il y avait un déficit considérable qui s'ajoute d'une année à l'autre. Et comme on l'a dit au début aussi, c'est une usine qui est très, très ancienne et elle n'est pratiquement plus compétitive avec d'autres usines qui sont maintenant en Guinée.
C'est
et en
ça.
Guinée, bon, elle est obligée parce que l'usine de Gardanne utilisait jusqu'en 1973 de la bauxite de chez nous, c'est-à-dire du côté des baux. C'est pour ça que ça s'appelle la bauxite, parce que ça vient des baux, baux
Oui,
bauxite.
belle
Mais en
découverte.
1973, le minerai a été épuisé, nous avons été obligés donc d'acheter la bauxite en Guinée. Et là, donc, l'usine a les frais d'achat, les frais de transport par la mer, de transport et de transport par le chemin de fer. Et elle n'est plus compétitive puisque maintenant, il y a 5, 6 même usines, dont 4 ou 5 qui sont en marche, qui sont sur place,
Oui.
qui ont donc le minerai à portée de main et qui ont une main-d'œuvre beaucoup moins chère que celle de la France.
Et
Donc
aussi,
comment une telle usine peut encore concurrencer ces gens-là? Et ce sont les Russes, ce sont les Chinois qui sont là, hein, avec des parts financières considérables. Donc ce n'est plus possible. Alors en plus de ça, le procédé Bayer, qui est le procédé donc actuel de traitement de la
d'extraction en
bauxite,
France.
va être donc obsolète, puisque les Canadiens ont mis au point un procédé qui s'appelle Orbit, qui permettra de fabriquer de l'alumine sans aucun déchet.
Oui, ça c'est
Et
extraordinaire. Parce qu'on ne
donc,
déplace pas la
c'est quelque
pollution.
chose que nous sommes en relation avec ce groupe industriel, et c'est une des solutions possibles. Mais ça veut dire une restructuration de l'usine ou l'arrêt de l'usine est construite ailleurs sur des modèles modernes utilisant cette dernière technique orbite.
Oui. Non, ce qui est intéressant, c'est que la pollution n'est pas déplacée. L'usine est déplacée, mais avec une meilleure fonctionnalité. Est-ce
Voilà.
que
Alors,
c'est
ce qui est
imaginable qu'il la
important aussi à
refasse?
dire pour ceux qui nous écoutent, on me pose toujours la question, alors dites-moi, la mer est polluée, le parc national des Calanques, c'est fait pour protéger, ça ne protège rien du tout. Et
Eh
alors
oui.
nous mangeons les poissons. Alors les poissons, est-ce qu'ils sont contaminés, les poissons?
Bah oui.
Alors oui, c'est ce que j'allais répondre. Les poissons sont contaminés parce qu'ils sont contaminés non seulement par le rejet industriel, mais ce rejet industriel va s'ajouter au rejet urbain, c'est-à-dire que la station d'épuration de Marseille n'épure pas à 100%, et donc une partie de la pollution, la charge de l'effluent urbain de Marseille, s'ajoute à celle de l'industriel, de même que les stations d'épuration de Cassis, de La Ciotat, s'ajoutent aussi. Et en plus, ça s'ajoute à ce qu'on appelle, nous autres scientifiques, le bruit de fond. Ça veut dire que la Méditerranée, elle est aussi un petit peu polluée, même si on ne parle pas de rejet. Donc, tout ça, on va dire, alors, mais les poissons, mais oui, les poissons sont contaminés, mais je ne veux pas affoler la population. D'une part, on mange une fois ou deux fois à la rigueur de poissons dans la semaine, et ce que je vous conseille, c'est, si c'est suspecté, quoi, le fameux poisson du Golfe, c'est d'enlever la tête et d'enlever surtout les viscères, les entrailles, parce
D'accord,
que
c'est oui, ça pue
C'est
plus.
partie du poisson qui concentre le plus les contaminants et notamment les métaux lourds toxiques. Et
Ah, c'est
donc,
bon.
si vous enlevez la tête et que vous enlevez donc les viscères, que vous nettoyez bien, il n'y a aucun danger de manger une fois ou deux fois du poisson des calanques. Bon, je serai plus sévère concernant les femmes enceintes.
Ouais.
Parce que les métaux lourds, comme le mercure, etc., a la capacité de traverser donc le cordon ombilical. Le placenta n'arrête pas ces produits. Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est que le bébé est contaminé par sa mère avant de naître.
Avant
C'est
de manger.
ce qui s'est passé à Minamata, le drame de Minamata avec le mercure.
C'est quoi, vous
Et c'est
pouvez
ce
expliquer le
que
drame de
j'ai
Mamata?
constaté quand j'étais encore en activité. Quand j'étais en activité, nous avions de grosses études sur la pollution marine, à peu près la moitié de l'activité de mon laboratoire, et nous recueillions les dauphins qui étaient morts au rivage. Et nous les amenions au laboratoire pour les disséquer et pour pouvoir identifier donc, et quantifier les polluants qu'il contenait. Eh bien, certains de ces dauphins étaient morts comme les Japonais de la maladie de Minamata. Pourquoi ? Bien, c'est parce qu'en mer, il y a un procédé particulier qui est ce qu'on appelle la concentration le long des chaînes alimentaires. Ça veut dire que vous avez une pollution dans l'eau. Cette pollution va augmenter quand c'est pris par le plancton. Ça va augmenter quand c'est un poisson planctonophage, comme une sardine ou un hareng. Mm. Ça va encore augmenter avec, par exemple, un loup, hein, ou une dorade. Et ça va encore augmenter quand c'est un thon ou quand c'est un dauphin. Et donc, quand ça arrive au sommet supérieur de la chaîne alimentaire, donc ce qu'on appelle les super carnivores, les concentrations sont très importantes. Et c'était le cas de ces dauphins. Nous avons, à l'époque, alerté les autorités. Et encore maintenant, on ne tient pas compte de ce phénomène de concentration le long des chaînes alimentaires.
Donc il faut plutôt pêcher des petits poissons.
Les investigations qui sont faites par les gros organismes qui ont pignon sur rue pour faire ce type d'investigation.
Donc il faudrait plutôt se nourrir de petits poissons.
Voilà.
Et est-ce qu'il y a une
par
zone...
Par exemple, si vous faire une friture, vous êtes obligé de garder la tête. Donc c'est pas bon. C'est pas bon.
Okay.
Bon. Mais enfin, il ne faut pas s'affoler. Hein. Ce n'est pas en mangeant une fois ou deux par semaine à un ou deux repas. Le dauphin, lui, il mange tous les jours du poisson, à tous les repas, et il mange 30 kilos de poisson par jour, le dauphin.
Oui.
Donc vous voyez, ce qui explique les concentrations énormes
Le
cerveau, dans le foie, dans les reins qui sont d'ailleurs détruits hein, par le mercure.
C'est certain. Et est-ce qu'il y a une zone interdite de pêche ?
Alors, voilà, si vous voulez, il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé, c'est l'industriel, ce que j'appelle, il fait le chantage à l'emploi. Il dit que si vous nous obligez à fermer l'usine, vous allez mettre des centaines d'ouvriers sans travail.
Parce qu'à l'heure actuelle, l'usine emploie combien de personnes ?
Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plusieurs centaines. Hein,
ouais.
Plusieurs centaines. Mais si vous voulez, il fallait qu'il y pense avant. Hein. Il y a eu 50 ans pour le faire.
Non,
et nous avons toujours, si vous voulez, notre démarche à UCL, ça a toujours été de dénoncer, mais c'était de proposer. On propose toujours. Et nous avons proposé les moyens de se dépolluer. Il existe des moyens techniques qui ont fait leur preuve, qui permettent de d'épurer à 100%.
Et donc, même avec cette usine
avons, dit à l'industriel, nous sommes d'accord de vous donner 3 ans, 4 ans pour dépolluer, mais si vous ne le faites pas, alors là, on ira en justice. Et c'est ce que nous faisons, puisque ça fait maintenant 7 ans que nous avons eu un premier contact à l'industriel et nous avions dit il existe des techniques pour se dépolluer. Ce qui a, bien sûr, il faut avoir les moyens financiers. Or, il ne les a pas. Donc, un autre aspect, c'est qu'on peut aussi mettre en parallèle le chantage à l'emploi des ouvriers de l'usine avec le chantage à l'emploi des pêcheurs.
Des pêcheurs.
Il y a de moins en moins de pêcheurs. Là aussi, c'est toute une économie marine qui en souffre. Et si cette pollution de la mer continue au rythme actuel, on risque d'avoir de gros problèmes sur la contamination de tous les fruits de mer et tous les produits de la mer.
Puis aussi le côté touristique.
Un exemple pour bien expliquer aussi, c'est qu'il y a dans la mer des cycles de vie que la plupart des gens ne connaissent pas, même pas les spécialistes. Je vous donnerai simplement l'exemple de l'oursin. L'oursin, oui. Pour se multiplier, il ne donne pas un petit oursin. Non, non. C'est un peu comme le papillon, il ne donne pas un papillon. Le petit oursin, il viendra plus tard. Ça veut dire que les gamètes, mâles et femelles, donc, fusionnent. Et de la fusion de ces gamètes dans la mer, il y a une larve. Une larve. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu la même histoire que le papillon. Le papillon, ça donne une chenille. Et le chenille, elle va ensuite se métamorphoser en papillon. Et là,
oui.
La larve, elle va vivre dans le plancton. Elle s'appelle Plutéus, cette larve. Et cette larve, à un moment donné, elle va se transformer en petit oursin qui va descendre ensuite au fond et vivre sa vie d'adulte. D'ailleurs, les scientifiques, et notamment tout un groupe que je connais bien de scientifiques italiens, ont montré que le plus toxique, c'était la larve Plutéus. Ça veut dire que les concentrations, le seuil de toxicité baissé pour la larve. Ça veut dire qu'avec peu de concentration, la larve meurt. Et c'est comme ça qu'on explique en grande partie la raréfaction des populations d'oursins. Ce n'est pas, c'est pas la pollution qui va tuer l'oursin adulte.
C'est directement
ça va
sur
tronquer,
la larve.
Ça va tronquer le cycle de développement, le cycle de vie. Voilà, c'est très, très complexe.
Oui, ça touche tous les animaux de la mer.
Alors, c'est ce qu'on appelle la grande sensibilité des juvéniles. Ça veut dire que ces juvéniles, les œufs, d'abord les gamètes, les œufs, les larves et les jeunes, très jeunes, sont beaucoup plus sensibles à la pollution. Ça veut dire qu'ils vont accuser la toxicité à des seuils beaucoup plus bas que les adultes. Et donc ça, c'est jamais pris en compte dans les travaux. C'est même totalement négligé en France.
On regarde juste sur la population finale et pas sur l'évolution de l'espèce.
Exact, exact, oui, exact. Donc ça touche énormément à toute l'économie marine.
Bien sûr. On va faire une petite pause musicale et on va retourner dans le détail et comprendre encore mieux sur les bouts rouges. C'est très intéressant, c'est riche. J'espère que les auditeurs comprennent et ont suivi depuis le début. On va retourner sur les bouts rouges dans quelques minutes et bonne écoute. Bonsoir à tous, vous êtes de nouveau sur Écoforum. Nous allons commencer la deuxième partie de l'émission. Nous sommes sur les boues rouges, cet fameux liquide rougeâtre qui est maintenant non rouge. C'est grâce à Henri Auger que nous savons tout. Il va nous réexpliquer un peu le contenant des boues rouges et son évolution. Rebonsoir Henri.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
Alors, les boues rouges ne sont plus rouges désormais.
Voilà, elles ne sont plus rouges, mais elles en sont tout le temps autant toxiques, sinon plus.
C'est vrai, ça, il faut bien le préciser. Parce qu'ils avaient quand même dit au début que ce n'était pas du tout une pollution. La composition des boues rouges exclut tout risque de pollution. Ces boues sont absolument comparables aux alluvions naturelles d'un fleuve et sont beaucoup moins importantes en quantité.
Oui, alors c'était ce que disait M. André Guggenheim.
Ouais.
Quand a été décidé le rejet des boues rouges en mer, ce monsieur qui était ingénieur hydrographe, il était membre de l'Institut, et il a tenu ce raisonnement que vous venez de dire, c'est-à-dire que les boues rouges étaient inertes, elles n'étaient pas toxiques, et qu'au contraire, ça faisait comme une alluvion d'un fleuve, et que ce n'était absolument pas toxique. Dommageable pour la mer et pour les fonds marins. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, oui. Je le répète, c'est que non seulement ces boues rouges sont chargées en polluants, mais ce qu'ils ont oublié, et pas mal de scientifiques de l'époque, ils ont oublié que c'était un recouvrement. Je veux dire, c'est quand même facile à comprendre, je veux dire, ça a été éludé. Supposez que vous avez un jardin avec vos tomates, vos poivrons, vos courgettes, etc., vous mettez une couche d'une épaisseur de 2-3 mètres par-dessus, c'est fini, tout va crever. Oui. Et c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé.
Oui, apparemment, c'est des lieux sans vie, où il n'y a plus aucun poisson.
Alors, bon, les poissons, non, parce que les poissons ne vivent pas au fond. Tout ce qui est mort, c'était ce qui vit au fond, ce qu'on appelle le domaine benthique.
Oui, mais s'ils peuvent plus se nourrir.
Il y en a quand même, hein, par exemple, tous les poissons plats, vivent au fond, hein, les raies, les sols, tout ça vit au fond. Donc ça aussi, c'est... bon, ils ont la capacité quand même de s'échapper. Hein. En général, ils s'échappent, hein, parce qu'ils sentent, hein, le danger. Mais tout ce qui est fixé meurt, parce que à demeure. Toutes les gorgones, le corail, toutes ces choses-là meurent. Les jambons de mer et tout ça, tout meurt. Ça, à l'époque, ils n'en ont pas tenu compte. Et il y a pourtant eu des personnalités très, très prisées qui se sont exprimées contre ce rejet. Je pense à Alain Bombard, hein, Alain Bombard, qui s'était élevé, c'était un médecin. Et on connaît aussi son exploit, hein, en mer. Eh bien, il s'était vraiment opposé à tout ça, de même que le roi du pastis, hein, Paul Ricard, il s'était vraiment opposé à ce rejet. Mais malheureusement, le gouvernement de l'époque a donné le feu vert. Et alors, le problème, c'est qu'on ne tient pas compte de l'histoire. Ça veut dire que la même histoire se répète aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a donné une autorisation pour les boues rouges, et maintenant, à notre époque, c'est pareil. Ça veut dire que, soi-disant, on a arrêté les boues rouges, mais on continue avec ces effluents qui sortent des filtres de presse et dont la gravité est peut-être encore plus forte parce que ces effluents vont remonter en surface et vont être dispersés sur l'ensemble du parc national des Calanques. C'est quand même quelque chose de très grave. Et ça n'a pas étudié. Il faudrait qu'il y ait une étude. C'est moi, si j'étais encore en activité, ce serait la première étude que je ferais. Ça veut dire que ça risque d'avoir des conséquences importantes sur la flore et la faune du parc national des Calanques.
Parce que là, les boues rouges qui sont plus rejetées sont étendues de la fosse humeur à Cassis. Et maintenant, les effluents qui en ressortent peuvent partir n'importe où, dans toute la Méditerranée. C'est bien cela.
Oui. Ça va rejoindre aussi la pollution apportée par le Rhône, hein, qui est très, très importante aussi. Il y a une très grande solidarité, hein, au point de vue de la Méditerranée. nous recevons les saletés italiennes par le courant Ligure, c'est facile à savoir. Sur les plages, par exemple de Nice, de Cannes, etc., on peut voir des sacs en matière plastique écrits en italien.
Oui.
Et alors donc nous recevons en plus donc la pollution donc de l'Italie par le courant Ligure, qui est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et nous refilons donc notre pollution à l'Espagne, hein, toujours à cause de ce courant Ligure. Vous voyez, donc une très grande solidarité, j'ose dire, concernant la pollution de la Méditerranée.
Et donc, il faut qu'on soit tous actifs dans chaque pays. Ce serait pas mieux avoir une
Alors,
juridiction internationale?
notre pays, avec d'autres pays, ont signé des accords pour la protection de la Méditerranée.
Eh oui.
C'est l'accord de Barcelone, signé par la France.
La
Dans
législation
l'accord de
y est.
Barcelone, la France, comme tous les pays signataires, dont l'Espagne, l'Italie, etc., s'engageait à ce qu'il n'y ait plus de pollution traitée en mer. Donc c'est incroyable, je veux dire, c'est en porte-à-faux total avec l'engagement de la France. C'est ça qu'il faut dénoncer, il faut le crier.
Et qui est là pour porter qui gendarme tout ça? Parce que si on peut signer des traités, mais si personne n'est là pour gendarmer.
Et non, ce n'est pas une affaire de police, c'est une affaire de décision politique. C'est au gouvernement. Nous avons, chaque fois que était nommé un président de la République, et en particulier donc les deux derniers, c'est-à-dire François Hollande et maintenant Manuel Macron, nous avons envoyé tous nos dossiers. Tous nos dossiers, nous ont envoyés, dont notre livre. Nous avons envoyé aussi notre magazine, L'Écho des Calanques, où nous expliquons le combat que nous menons. Nous l'avons
Mais
envoyé donc
il y
au
a eu.
président de la République, Hollande et Macron. Nous l'avons envoyé au Premier ministre, Édouard Philippe et Valls. Et nous l'avons envoyé aux différents ministres en charge de l'écologie, en charge de l'environnement. Alors, nous avions eu un espoir formidable quand Nicolas Hulot a été nommé ministre de l'Environnement. On a dit, ça y est, ça va s'arrêter. Eh bien non,
Non.
non, non, il a été totalement empêché. C'est-à-dire que c'était plus subtil pour lui que Ségolène Royal. Ségolène Royal a été totalement écarté par Manuel Valls, qui a pris la décision seul et de façon antidémocratique. Par contre, pour Nicolas Hulot, bon, il a vu que c'était ce qu'appelait d'ailleurs le Premier ministre de l'Environnement, c'était le ministère de l'impossible. C'est de l'impossible, vous voyez. Et donc, tous les dossiers, toutes les demandes que nous avons formulées sont restées muettes.
Les seuls moments où vous avez réussi à faire évoluer le dossier, c'est en manifestant. Parce que vous avez quand même réussi à faire évoluer le passage de la boue rouge à l'effluent, c'est grâce aux manifestations.
C'est quand même un moment important. Il faut reconnaître que c'est un effort important d'avoir supprimé donc le rejet de boue rouge grâce au filtre presse. Et
Ça,
tout
c'est en
ça
quelle année que ça a
a
commencé?
été aidé l'agence de l'eau. Et d'ailleurs, nous avons été en relation avec l'agence de l'eau. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est que l'agence de l'eau. C'est quelque chose de formidable. En France, c'est quelque chose de formidable. C'est-à-dire, cette agence de l'eau, elle prélève des finances à ceux qui polluent. Ça veut dire que c'est un peu ce que les étudiants de la Révolution de 1968 avaient dit, le payeur sera le payeur. Or, là, c'est le cas. Tous ceux qui polluent, que ce soit un centre urbain ou un industriel, doivent payer des redevances à l'agence de l'eau. Et
D'accord.
cet argent, l'agence de l'eau le garde et s'en sert pour aider les communes et les industriels à se dépolluer. Et donc, nous avons demandé à l'agence de l'eau d'aider l'industriel à se dépolluer avec des techniques modernes qui est pure à 100%. Et nous avons demandé aussi à la métropole de Marseille, avec qui nous sommes en négociation, de solliciter l'aide de l'agence de l'eau qui a été dotée qui a un volant, alors l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui a un volant de 2 milliards et demi, quoi. Je veux dire, il y a de l'argent là.
Ouais.
Et concernant un parc national dans la plus haute valeur de protection en France, on peut trouver d'autres moyens financiers, c'est-à-dire non seulement l'agence de l'eau, mais des finances locales, régionales, municipales, régionales, nationales, et aussi l'Europe. Donc, il faut une volonté politique. Les techniques sont au point, on peut épurer n'importe quel effluent à 100% à condition de mettre les moyens financiers. Et les moyens financiers, on peut les trouver.
Oui. Sauf que cette usine-là, pour le moment, elle ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir le faire. Est-ce qu'il y a possibilité qu'elle ferme ? À être aussi peu rentable ?
On se demande comment elle n'a pas encore fermé. Comme je l'ai dit, donc, notre spécialiste de ces questions, M. Michel Mazzolini, a démontré que ce n'était plus une usine rentable.
Mm.
Et c'est encore quelque chose de plus grave, parce que vous savez que quand une usine ferme, il faut qu'elle ait mis de l'argent de côté pour enlever les installations industrielles et enlever donc les rejets, les déchets.
Mm.
Or là, ce n'est pas le cas. Elle n'a aucune réserve pour ça. Donc si elle ferme, ce sera à la charge de l'État, c'est-à-dire à notre charge, à nos impôts.
Bien sûr. Et du coup, vous avez cité que tout effluent, tout liquide pouvait être complètement décontaminé. Ça veut dire que tous les égouts de Marseille, Cassis et les villes aux alentours, il y aurait une autre solution que les décharger en mer.
Tout à fait exact. Vous avez des villes comme Barcelone, des villes comme Berlin, qui est pure à 100%. Et je vais vous donner un autre exemple, hein, fantastique. C'est la Namibie. La Namibie, c'est un petit pays du sud de l'Afrique.
Hein, la Namibie. On ne pense pas à ce genre de pays pour la propreté de l'écologie.
Alors, voilà, ce pays, la Namibie, qui souffre donc d'un manque d'eau, hein, évident, hein, comme beaucoup de pays africains, s'est doté d'une station d'épuration urbaine. Ça concerne bien sûr la capitale, hein, de la Namibie. Une station d'épuration, tenez-vous bien, qui est pure à 100%. Et par conséquent, les eaux polluées, les eaux usées qui sortent des toilettes, qui sortent de toutes les machines à laver, on retrouve cette eau dans le robinet comme eau potable. Voilà ce qu'on peut faire avec les techniques qui sont au point actuellement.
Incroyable.
Il faut absolument que les politiques, les responsables connaissent ça. C'est important. Parce que souvent, un responsable municipal, bon, on ne peut pas le reprocher, il ne peut pas avoir une formation de scientifique, mais il faudrait qu'il écoute. Quand on dit la station d'épuration est pure à 90%, 95%.
Mais on peut faire du 100%.
C'est faux, parce que c'est en termes de MEST, c'est-à-dire matière en suspension, et en termes de MO, matière organique. Alors, ça peut, par exemple, la station d'épuration de Marseille, donc de l'agglomération marseillaise, est pure à 90%, ces deux paramètres, les matières en suspension et les matières organiques. Mais il y a des produits comme les métaux lourds, comme certains détergents, qui ne peuvent pas être détruits par la station d'épuration, donc ils passent la filière de dépollution. Alors, je donne toujours comme exemple les détergents. Hein, on est tous concernés, puisqu'ils ont tous des détergents. Mmh. Eh bien, la station d'épuration, elle laisse passer 15% des effluents qui arrivent à elle. Et ces 15%, donc, ce sont des produits qui sont indestructibles. Ils ne sont pas biodégradables. Et par conséquent, ils vont s'accumuler dans le milieu marin. Alors, ça, c'est pas n'importe quoi, parce que ça s'appelle des tensioactifs, hein, c'est-à-dire les produits qui ont l'activité de lavage dans les détergents. Ces tensioactifs, ils provoquent des nécroses sur les organismes végétaux marins. Nous avons, quand j'étais encore en activité, nous avions fait des expériences avec l'herbier de Posidonie, qui est une prairie sous-marine d'un grand intérêt écologique et économique méditerranéen.
Et on en a beaucoup.
Nous avions donc fait des cultures de cette posidonie et nous avions donc remarqué que les détergents provoquaient une sclérose des feuilles et une mort de la plante. De même que ces tensioactifs s'attaquent aux branchies des poissons. Ça veut dire qu'ils vont détruire en partie l'épithélium des branchies. Alors, les branchies, ce sont l'équivalent de nos poumons, hein,
ouais.
pour les poissons et pour de nombreux organismes. Ça sert donc non seulement à la collecte de la nourriture, de certaines nourritures, mais également surtout à la respiration. Et donc, une destruction des branchies par les tensioactifs, ça amène une anorexie, c'est-à-dire une mort par manque d'oxygène.
Et en plus, tout ça est évitable.
Donc, c'est très important. Et les techniques qu'on utilise et qui sont utilisées en Namibie permettent d'éliminer ces substances qui ne sont pas biodégradables.
Bah, ce serait fabuleux qu'on le fasse. Pourquoi la France ne s'y met pas? Pourquoi Marseille ne s'y met pas?
Alors, justement, c'est ce que j'ai déclaré aux responsables de Marseille, notamment aux responsables municipaux. Je l'avais dit même à Jean-Claude Gaudin. J'avais dit, vous avez l'ambition de faire de Marseille la métropole de la Méditerranée. Eh bien, alors, montrez l'exemple. Faites une station d'épuration qui est pure à 100%. Montrez l'exemple. Alors là, oui, là, vous pourrez vous vanter d'être la métropole de la Méditerranée.
C'était bien dit. Y a-t-il eu une réponse?
Pardon?
Y a-t-il eu une réponse?
Non, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Mais
parce que ce n'est même pas en projet pour le moment.
C'est un choix politique. Vous voyez, moi, je parle en tant que scientifique de défense de la mer. Je suis engagé. Mais se mettre dans le pot d'un politique. Je vous donnerai l'exemple qui est assez subtil de Gaston Defferre. À l'époque, donc, il était maire de Marseille et il avait un peu d'argent et il avait deux gros problèmes à Marseille. C'était le déplacement qui était de plus en plus difficile, le déplacement dans la ville et le fameux déversement à Corsiou de tous les effluents urbains non dépollués bruts. C'était quelque chose d'abominable à l'époque. Hein. Alors, il était malin, il a fait un sondage. Il a fait un sondage et les Marseillais ont préféré résoudre donc le problème des transports plutôt que la pollution de la mer. Et c'est comme ça qu'on a construit le métro de Marseille, la première ligne du métro de Marseille. Donc, vous voyez, c'est pas
sage
facile
décision.
Pour un politique, pour un maire, d'arriver à solutionner les problèmes. Alors, il faut les aider, il faut les éclairer. C'est un peu le rôle que nous essayons de jouer.
Bah, j'espère qu'ils vont nous entendre parce que ça soit encore rejeté en mer, c'est quand même édifiant.
Alors, justement, il ne faut pas nous considérer comme des adversaires. Au contraire, nous sommes là pour tendre la main. Nous sommes là pour tendre la main, nous avons les connaissances et donc nous demandons à être entendus. Alors, c'est vrai que les autorités de la métropole nous ont reçus et ont travaillé avec nous. Et nous sommes donc en négociation avec elle pour essayer d'aller plus loin, pour essayer donc de doter la station d'épuration de Marseille de ce qu'on appelle un traitement tertiaire, qui serait complémentaire des traitements primaires et secondaires actuels, et qui permettrait donc d'arrêter le rejet dans les calanques. Nous avons aussi un autre problème qu'on peut évoquer aussi, c'est que pour réaliser la grande plage donc du Prado, on a été obligé de détourner le grand fleuve marseillais qui s'appelle l'Uvonne. On a été obligé de déplacer ce fleuve et bien sûr, on l'a envoyé où? Dans les Calanques. C'est un fleuve qui, à l'époque, était archi-pollué. Donc, la pollution de ce fleuve venait s'ajouter encore à la pollution dont nous avons parlé. Et donc, maintenant, il y a des efforts considérables pour dépolluer l'Uvonne. Nous avons demandé que ça soit accéléré aussi, de façon à pouvoir rétablir l'Uvonne dans son lit. Et nous sommes aussi là en négociation avec les autorités de ce côté-là. Donc, toutes les autorités ne se ferment pas devant nous, mais nous avons beaucoup de mal parce qu'il y a un manque évident de connaissances.
Donc ça serait possible. Est-ce que c'est un pourparler qui va se faire? C'est combien d'investissements? Vous avez un peu une notion?
Non, là, je n'ai pas la compétence pour faire ce type d'évaluation parce qu'il faut que ce soit des organismes internationaux hein, qui existent. Ce sont eux d'ailleurs qui sont à la base de tous ces travaux donc, je vous ai raconté, donc, notamment en Namibie, etc. Donc, ce sont des organismes internationaux qui vont choisir au mieux, grâce à des spécialistes, quelles sont les techniques les plus performantes. Tenant compte de la charge, de la qualité, de la quantité de la charge, qui vont déterminer donc ce qu'il faut mettre en place comme technique, et donc de là découlera le coût. Donc je ne suis pas capable pour l'instant moi, de vous donner ce genre de renseignements. Ce sont des grands groupes internationaux super spécialisés auxquels il faut faire appel.
Ce serait super en tout cas que l'eau soit complètement dépolluée. J'espère que c'est un projet qui va avoir lieu et qu'il n'y aura pas de sondage auprès des Marseillais et que la décision viendra de la mairie.
Est-ce que vous avez... c'est très important. Alors, vous voyez, concernant l'Uvonne, ça touche peut-être plus les Marseillais parce que si on arrive à terminer la dépollution de l'Uvonne, ça a commencé un peu. On peut recommencer à mettre des poissons dans l'Uvonne. Et donc, on peut faire de cette Uvonne un endroit ludique pour les Marseillais qui retrouveront donc une eau propre, une eau saine, et on pourra se promener sur les bords, on pourra faire du canotage, on pourra pêcher des poissons, etc.
Bien sûr.
Il y a un espoir concernant l'Uvonne. Et l'espoir aussi, c'est d'arrêter de la déverser dans les calanques. C'est un non-sens, puisque c'est de l'eau douce. Et ça perturbe la vie marine, hein, l'eau douce. Et donc, c'est aussi un de nos combats, de remettre l'Uvonne dans son lit.
Elle se déversait où, en fait, avant?
Dans la baie du Prado, à côté du David, là, vous voyez, pas loin du David.
D'accord.
D'ailleurs, quand il y a de gros orages, les eaux sont envoyées là parce que la station d'épuration de Marseille est débordée. Et donc,
oui, bien sûr.
On envoie ça là, oui. Heureusement, ce sont des épisodes quand ce n'est pas la période de la baignade, hein, ça n'arrive pas à l'été.
C'est à l'heure actuelle, en fait. C'est en ce moment que ça se déroule.
Parce que sans quoi, il y aurait le drapeau rouge hein, de ne pas se baigner. Hein.
Avez-vous un petit mot de la fin? On a bien parlé des boues rouges. On sait ce que c'est. On comprend désormais l'évolution des boues rouges, de l'effluent pollué, de la production et bien sûr de l'objectif des Calanques, du parc des Calanques, qu'il ne soit pas un déversoir. Parce que quel est l'intérêt que ça soit un parc national si on peut rejeter sans vergogne? Je crois qu'on a fait un beau cheminement. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter?
Oui, bien je fais appel à tous, non seulement donc à tous ceux qui nous écoutent, mais je fais un appel aussi aux responsables administratifs et aux responsables gouvernementaux pour que ensemble nous arrivions donc à solutionner ce problème dans la mesure où les moyens existent, les moyens techniques et les moyens financiers, on peut les trouver.
C'est ça le plus fou. Tout est possible et surtout, tout est encore... C'est actuel. Donc, on a juste à agir maintenant et à mettre en place.
Voilà.
Merci beaucoup pour votre temps.
Et qu'on soit écouté.
Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre action tout au long de notre vie et surtout sur ce temps donné à l'émission. On a bien compris tous les enjeux et j'espère qu'on va donner cette parole. Merci beaucoup et à très vite.
Et je fais un appel pour qu'on nous rejoigne et qu'on nous aide.
Vous pouvez rappeler sur quoi on peut se connecter pour vous retrouver? Quel est le site portail?
Ah oui, alors c'est le site c'est
ucl.association.free.fr. OK.
FR, c'est notre site.
OK, pour voir toutes les informations au jour le jour.
Voilà. Et vous pouvez aussi aller sur Internet, sur Google, et vous demandez le magazine donc, L'écho des Calanques, et vous aurez tous les magazines depuis l'origine.
Super.
C'est-à-dire, ça, nous existons depuis plus d'un quart de siècle, et donc nous avons donc une couverture de, à part l'écho des Calanques, et là vous connaîtrez tout le détail de notre combat.
Et bien sûr, tout est résumé dans le livre noir des Beaux-Rouges, écrit voilà, par vous-même, voilà. Où il y a voilà. Toute l'évolution si du pub, dossier.
Donc, en donnant l'adresse de l'éditeur, c'est important. Hein.
C'est Libre et Solidaire.
C'est Libre et Solidaire, 19 rue Balu.
Oui.
19 rue Balu.
Mais on peut le retrouver dans nos librairies. Hein.
Voilà, 75-009 Paris.
Parfait. Merci beaucoup. Et à bientôt pour une prochaine
merci
émission.
Merci à vous de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer.
Merci.
Nous sommes très sensibles.
Une bonne après-midi.
Merci encore.
Une bonne soirée. Au revoir.
À vous.
Merci
à
les bientôt. Auditeurs et à très vite.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back.